Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous débuterons ce journal avec l'attribution ce matin du prix de la Banque de Suède en sciences économiques, plus communément appelé Nobel d'économie, à l'américain donc Paul Milgram et son compatriote Robert Wilson pour leur théorie sur l'optimisation des ventes aux enchères.
Toujours dans votre journal, les révélations d'une enquête menée dans l'enseignement supérieur.
Oui, où l'on apprend qu'une étudiante sur 10 a été victime d'agressions sexuelles en France.
À l'occasion de l'examen par les députés du projet de loi de finances pour 2021, invité de la rédaction.
Jean-Louis Bricou, nous recevrons le député socialiste, membre de la commission des finances d'ici une vingtaine de minutes.
Quand la deuxième vague de Covid-19 menace de déborder les hôpitaux en France.
À deux jours d'une nouvelle prise de parole très attendue du chef de l'État, le Premier ministre Jean Castex a évoqué ce matin la possibilité d'ordonner des reconfinements locaux. À l'étranger, nous nous intéresserons tout d'abord à cette décision de la Turquie de renvoyer ce matin un navire d'exploration en mer Méditerranée orientale au risque de raviver une nouvelle crise avec la Grèce. Et puis après un an d'exploration de l'Arctique, la plus grande expédition jamais menée au pôle Nord a regagné l'Allemagne aujourd'hui en lançant un véritable cri d'alarme sur la fonte de la banquise provoquée par le réchauffement climatique. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Pas de revanche des campagnes pendant le confinement, ni de répit d'ailleurs. Les zones rurales et périurbaines sont plutôt aujourd'hui encore les grandes oubliées de la crise sanitaire. On en parlera avec nos invités, l'auteur de nos campagnes suspendues, Salomé Berliou, et l'écrivain Goncourt 2018, Nicolas Mathieu.
Même s'il est la récompense la plus prestigieuse pour un chercheur en économie, le prix n'a sans doute pas acquis, c'est vrai, le même statut que les disciplines choisies par Alfred Nobel lui-même dans son testament fondateur, et c'est aussi la raison pour laquelle ses détracteurs le raillent généralement comme un faux Nobel. Mais peu importe, le prix d'économie a donc été décerné ce matin à deux Américains, Paul Milgram et Robert Wilson. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors précisons tout de suite que ce duo figurait parmi les favoris pour le prix cette année. Pourquoi ? Parce que les deux hommes ont conceptualisé une théorie sur l'optimisation des ventes aux enchères, notamment utilisée aujourd'hui, Anne-Laure, dans l'attribution des fréquences télécom.
Oui, ces deux économistes américains de l'université de Stanford, Paul Milgram, âgé de 72 ans, Robert Wilson, à lui 83 ans, a été le directeur de thèse de Milgram. Ils ont en effet amélioré la théorie des enchères et même inventé de nouveaux formats d'enchères pour des biens et des services qui avaient du mal à être vendus par des canaux traditionnels. Des découvertes qui ont des applications très pratiques. En 1994, les autorités américaines ont ainsi utilisé l'un de leurs formats d'enchères pour vendre des fréquences radio aux opérateurs de télécommunications. Puis ces systèmes se sont diffusés dans le monde entier. Et même si leurs découvertes ont été faites en grande partie avant l'avènement d'Internet, elles ont encore une grande résonance. Leurs travaux ont ainsi été utilisés, vous le disiez, pour l'attribution des fréquences 5G. Interrogé juste après l'annonce du prix, Robert Wilson a reconnu ne jamais avoir participé à une vente aux enchères, hormis la vente d'une paire de bottes de ski sur eBay. Voilà pour l'anecdote. Pas d'originalité, en tout cas, dans le profil retenu cette année. Le portrait robot du Nobel d'économie est un homme âgé de plus de 65 ans, de nationalité américaine.
Merci Anne-Laure Jumet. C'est une enquête stupéfiante autant que terrifiante. En France, une étudiante sur 20 dit avoir été victime de viol et une sur 10 d'agressions sexuelles. Voilà ce qui ressort d'une étude publiée aujourd'hui et réalisée par l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. Au total, ce sont plus d'un tiers des étudiants qui déclarent avoir été victimes ou témoins de violences sexuelles, avec parmi les causes de violences le plus souvent énoncées l'effet de groupe, l'impunité, la consommation excessive d'alcool ou bien encore le manque d'éducation. Toujours selon ce rapport, les faits de violence physique sont plutôt commis en soirée ou en week-end, hors du campus. C'est le cas pour plus de la moitié des viols et ces violences sont par ailleurs principalement le fait d'étudiants ou dit autrement, il s'agit souvent du cercle d'amis proches et de personnes connues de la victime. Alors pour réaliser cette enquête, pas moins de 10 000 étudiants ont été sollicités à travers toute la France avec un questionnaire censé tout d'abord identifier la proportion de ce phénomène mais aussi briser l'omerta et libérer la parole des victimes comme l'explique la présidente de l'Observatoire Iris Mérachal.
Lors de mes études, j'ai réalisé à plusieurs reprises à quel point les violences sexuelles et sexistes étaient présentes, que ce soit pendant les cours, en soirée, au sein des associations. Et il y a à peu près un an et demi, j'en parle à une de mes professeurs et on décide du coup de créer ce questionnaire et de s'appuyer pour cela en fait d'un comité d'experts avec des présidentes d'associations sur les violences sexuelles et sexistes, des sociologues, des psychiatres, des doyens d'universités et d'écoles. Nous, on a recruté en fait des étudiantes et étudiants référents pour vraiment accélérer cette diffusion. Et c'est vraiment grâce à eux qu'on a obtenu ces 10 300 réponses. Alors la première chose vraiment inquiétante, donc c'est sur les chiffres des violences sexuelles et sexistes subies et observées. On a une étudiante sur 10 qui déclare avoir été victime d'agression sexuelle. Une étudiante sur 20 qui déclare avoir été victime de viol. Ensuite, on a essayé un peu d'analyser le parcours de ces victimes et des témoins de violences sexuelles et sexistes. Et on se rend compte que seulement 11% d'entre eux en ont informé leur établissement. Alors pourquoi les principales raisons citées, c'est « ça ne sert à rien »,« ce n'est pas pris au sérieux ». Quand on regarde les causes des violences sexuelles et sexistes, il y a 4 choses principalement citées. Effet de groupe, impunité, consommation excessive d'alcool et le manque d'éducation des étudiants sur le sujet. Donc ça, c'est des éléments assez marquants. Notre objectif, c'est vraiment, en fait, avec ce questionnaire, de faire prendre conscience aux établissements que l'inaction, ce n'est plus une option, que là, on a montré qu'il y avait un problème et qu'il fallait maintenant agir. Et ce qu'on leur propose, c'est de mettre en place dans leur école, dans leurs universités, des enquêtes personnalisées pour leur montrer quel est leur problème à eux et leur proposer des solutions adaptées à leur contexte.
Voilà Iris Merachal, présidente de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur.
La suite de votre journal, Thomas Cluzel. Année exceptionnelle, mesures exceptionnelles.
Oui, à partir d'aujourd'hui, pour une semaine, les députés sont appelés à plancher sur un nouveau budget hors normes, centré sur un plan de relance de 100 milliards d'euros prévu pour favoriser la reprise. Alors avant les crédits alloués à la relance, ce premier volet du projet de loi de finances sera lui dédié aux recettes. Et à ce titre, il devrait surtout consacrer la baisse des impôts de production pour les entreprises sans condition. Une mesure fiscale qui était en réalité déjà dans les tuyaux du gouvernement bien avant la crise, d'où la sortie du patron des députés LREM, Christophe Castaner, lequel s'est senti obligé de préciser qu'il ne s'agissait pas là de cadeaux, mais bien d'aides destinées à préserver des centaines de milliers d'emplois. Ce qui n'empêche pas des voix au sein de l'opposition, mais aussi parmi la majorité, de réclamer des contreparties à la fois écologiques et sociales à l'octroi de ces aides. Toujours dans ce budget 2021, il est un ministère en particulier qui sera particulièrement attentif à l'enveloppe qui lui sera dévolue, celui de l'intérieur. Il faut dire que l'attaque samedi dernier du commissariat de Champigny-sur-Marne par une quarantaine de personnes au tir de mortier d'artifice, 2 jours seulement après que 2 policiers en mission en civil ont été blessés dans le Val-d'Oise, a semé un vif émoi chez les syndicats des forces de l'ordre. Ceux-ci seront d'ailleurs reçus demain par Gérald Darmanin, puis jeudi par le président Emmanuel Macron. Une demande ancienne en l'occurrence, mais restée jusque-là lettre morte. Enfin, j'ajoute que des représentants des forains seront eux reçus cet après-midi au ministère de l'économie et des finances, durement touchés par la crise sanitaire. Ils réclament notamment l'accès aux fonds de solidarité. S'agissant de la crise sanitaire, justement, et face à la résurgence épidémique, 10 de métropoles sont déjà passées depuis quelques jours en zone d'alerte maximale. Et dès ce soir, Toulouse et Montpellier rejoindront à leur tour cette catégorie pour une durée minimale de 15 jours. Avec notamment à la clé fermeture des bars et imposition d'un protocole strict dans les restaurants. Des mesures qui pour l'heure n'ont d'ailleurs pas eu véritablement d'effet apparent sur les indicateurs de l'épidémie. Pour la seule journée de samedi, la France a enregistré près de 27 000 nouveaux cas de contamination, un record absolu depuis le début de l'épidémie en mars dernier. Et c'est ainsi que ce matin, Jean Castex a dit notamment ne pas exclure d'ordonner des reconfinements localisés pour endiguer la deuxième vague épidémique. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux, a lancé le Premier ministre qui appelle, Pierre, les Français à la prudence et au bon sens.
Et face à une situation sanitaire particulièrement complexe sur France Info, ce matin, le Premier ministre en appelle au civisme, à la responsabilité de chacun. Nous sommes, dit Jean Castex, dans une deuxième vague forte, il ne peut y avoir de relâchement. Il demande donc aux Français de se ressaisir pour éviter un durcissement des mesures actuelles.
Le reconfinement général doit être par tout moyen évité. Encore une fois, c'est possible si nous nous y mettons tous. Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux.
Rien ne doit être exclu, dit le Premier ministre, y compris d'ordonner de possibles reconfinements locaux. Ce matin, Jean Castex a donc lancé un appel à la mobilisation générale, y compris aux élus, l'occasion pour lui de justifier une réponse graduée et territorialisée, et surtout, écoutez, d'affirmer toute sa détermination.
Oui, je me suis opposé à la maire de Marseille parce que je considérais qu'il y avait des positions démagogiques et je continuerai de le faire. Ne confondons pas, le dialogue, c'est ce qui scelle la démocratie, c'est ce qui fait le pacte social. Et ça marche, regardez, avec des gens aussi différents que Madame Aubry, même avec Madame Hidalgo. Nous sommes parvenus à des accords. Mais il y a une limite, c'est l'intérêt général.
Ma mission n'est pas de plaire, mais d'agir et de réussir. Je n'ai pas la main qui tremble, martèle Jean Castex à l'adresse des élus, des membres de sa majorité, mais aussi de ses ministres qui se sont divisés dernièrement autour de la question de l'ensauvagement de la société. Le chef du gouvernement qui, au passage, reconnaît que l'insécurité est aujourd'hui le point faible de notre pays. Nous serons, dit Jean Castex, intraitables. Alors preuve, s'il en est, que la parole politique doit être expliquée en cette période de crise sanitaire, économique et sécuritaire, eh bien c'est le chef de l'État Emmanuel Macron qui poursuivra cet effort de pédagogie mercredi soir dans les 20h de TF1 et France 2.
Merci Pierre Neveu. Alors face à cette deuxième vague de l'épidémie, le gouvernement nous demande donc de limiter nos interactions, ce qui pose notamment la question de l'isolement des personnes âgées. Depuis le début de cette crise, les seniors ont déjà vécu, on le sait, un confinement très compliqué, en particulier dans les EHPAD. Et pour tenter de pallier cette solitude, eh bien, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des accueillants familiaux agréés par des conseils départementaux, au nombre de 15 000 environ sur tout le territoire, des hommes et des femmes prêts à recueillir chez eux, dans leur famille, une personne âgée qui a besoin d'être accompagnée. Ce sont ces initiatives concrètes, porteuses de solutions, que nous avons choisi de promouvoir lors de cette journée spéciale sur France Culture, sur la thématique du journalisme de solutions. Je vous propose d'écouter le reportage d'Arnaud Rozac, lequel est allé à Paris, dans le 12e arrondissement, à la rencontre de Jacqueline, laquelle a trouvé un peu de chaleur dans l'appartement de Zina.
Il est 16h et comme tous les jours de la semaine, c'est l'heure du thé pour Zina et Jacqueline.
Jacqueline,
oui.
Tu veux que je te mets un petit peu de l'eau?
Oui,
comme ça, ça refroidit.
Oui.
Donc là, ici, Jacqueline, on est dans votre chambre, c'est ça?
Oui, c'est ma chambre.
Et vous vous y plaisez?
Oh ben là là, si ça me plaît. Je partirai pas pour rien, je fais partie des mômes.
Jacqueline a 95 ans. Victime d'un AVC il y a quelques années, elle doit être suivie au quotidien. Jacqueline était en EHPAD au début de l'épidémie. Son fils, qui ne peut plus s'en occuper, a décidé de l'en sortir et de l'amener ici, chez Zina.
Elle était fatiguée, elle était trop malade, c'est pour ça son fils il l'a sorti. Il m'a dit, hey, moi, je connais pas ma mère. Elle pleure tout le temps, elle a maigri, elle mange pas. Et ben, j'ai dit, chez moi, non, elle va manger, ne vous inquiétez pas.
Tout de suite, le courant passe entre les deux femmes. En seulement 3 mois, Zina est devenue la boussole de Jacqueline, un repère dans son quotidien.
Je ne sais pas si je ne tomberai pas malade. Si je la voyais partir...
Elle ne pleure pas.
Non.
Je ne pars pas, je suis avec toi.
Oui, oui. Parce que je ne peux pas vivre sans vous. Que le bon Dieu te garde en bonne santé, ma chérie.
Zina regrette que son métier ne soit pas assez connu du grand public. À 69 ans, elle accompagne toujours ses résidents jusqu'au bout, jusqu'à la fin, avec douceur et tendresse.
Il faut que je donne à ces gens-là, parce que je sens que ça leur manque, l'amour, la tendresse, être écoutée. Il faut que je le fasse.
Jacqueline s'estime chanceuse. Dans les grandes villes, il est souvent très difficile de trouver des accueillants familiaux.
Bernard Tapie à nouveau devant la justice, 15 mois après sa relaxe, l'homme d'affaires et ex-ministre est rejugé en appel à partir d'aujourd'hui avec 5 co-prévenus dans l'affaire feuilletonesque de l'arbitrage, lui ayant accordé un peu plus de 400 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. La première après-midi d'audience devrait être entièrement consacrée aux batailles de procédure entre la défense et le parquet général.
La suite de votre journal, Thomas Cluzel, à midi. Presque 45 de nouveaux combats opposés encore ce matin, arméniens et azerbaïdjanais, dans l'enclave séparatiste du Haut-Karabakh.
Et ce, en violation donc d'un accord de trêve humanitaire négocié sous l'égide de la Russie, censé être entré en vigueur samedi dernier. Et comme à leur habitude, depuis la reprise des combats, les belligérants se rejettent la responsabilité de ces hostilités. Comme un lointain écho aux échanges tendus quasi quotidiens le mois dernier, le ministère grec des Affaires étrangères a condamné ce matin la décision turque de déployer à nouveau un navire d'exploration méditerranée orientale pour y rechercher du gaz naturel. Athènes, vous le savez, revendique sa souveraineté sur ses eaux, sauf que la Turquie conteste cette domination, soutenant qu'elle devrait avoir des droits plus étendus en raison de son littoral plus long. Quoi qu'il en soit, ce nouveau déploiement sape donc les espoirs de désescalade qui étaient nés ces dernières semaines. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Ce matin, la Grèce, Éric, qualifie même l'opération turque de menace directe à la paix dans la région. Oui, l'Oruç Reis, le navire de recherche turc, a repris la mer cette nuit et fait actuellement route plein sud, flanqué de deux navires de ravitaillement en mer. La petite flottille, qui n'est semble-t-il nullement escortée par des bâtiments militaires, comme ça avait été le cas cet été, devrait arriver à pied d'œuvre, c'est-à-dire sur la zone sur laquelle le navire de recherche doit poursuivre sa campagne de sondage à partir de demain. Alors pour la Grèce, vous l'avez dit, et le ministère des Affaires étrangères s'est même fendu d'un communiqué ce matin, le déploiement de l'Oruç Reis est une menace directe à la paix et à la sécurité dans la région. La précédente campagne de recherche de l'Oruç Reis avait été pareillement considérée par Athènes comme une quasi-agression cet été. Alors selon les coordonnées diffusées dans son telex de navigation, lequel précise sa zone d'opération, l'Oruç Reis devrait pourtant opérer dans les eaux internationales, plus de 50 km au sud de la première côte grecque, celle de l'île de Castelorizo. Mais la Grèce considère qu'il s'agit là de sa zone économique exclusive, dans laquelle aucune exploitation ou recherche minière ne peut se dérouler sans son aval. La Turquie qui, de son côté, considère que ce même périmètre maritime, au sud de Castelorizo, devrait être ressorti à sa propre zone économique exclusive, ses côtes étant les plus proches. Le différend gréco-turc autour de la souveraineté des zones maritimes en Égée en Méditerranée est ancien, complexe. Il n'a jamais été soumis à jugement de la Cour internationale de justice ou tranché par un tribunal arbitral. Des discussions exploratoires entre les deux pays devaient débuter d'ici quelques jours. Il est à craindre qu'elles soient annulées ou reportées, au moins jusqu'à la fin de la mission de l'Oruç Reis, prévue pour dans 10 jours.
Merci Eric Biegala. Après s'être déclaré immunisé contre le Covid-19, Donald Trump, en retrait forcé depuis 10 jours, semble bien décidé à en découdre. Le président américain a prévu d'entamer à partir d'aujourd'hui un marathon de 3 jours de meetings dans 3 États clés, la Floride, la Pennsylvanie et l'Iowa, avec l'espoir de rattraper son retard sur son adversaire Joe Biden. Et pour son retour sur les estrades de campagne, nul doute que le candidat républicain devrait tenter de galvaniser sa base électorale en vantant son choix de la juge Amy Coney Barrett pour la Cour suprême. C'est aujourd'hui en effet que le Sénat doit entamer l'audition de la magistrate nommée par le chef de l'État pour succéder à l'icône féministe et progressiste Ruth Bader Ginsburg et dont la confirmation ne fait a priori que peu de doutes. Enfin, on notera que la Maison Blanche a effectué hier une énième volte-face sur la relance de l'économie, pressant cette fois-ci le Congrès de voter un mini-plan destiné à aider en urgence les PME en difficulté, sauf qu'à 3 semaines des élections, il est peu probable que cette requête soit acceptée par les démocrates, lesquels réclament un soutien de plus grande ampleur. Après 1 an d'exploration de l'Arctique, la plus grande expédition jamais menée au pôle Nord a regagné l'Allemagne aujourd'hui. Sauf qu'à l'heure du retour, c'est peu dire que l'ambiance au sein de l'expédition internationale est loin d'être à l'euphorie. Et pourquoi ? Parce qu'à l'issue de ces 389 jours en mer, les scientifiques n'auront pu que constater l'ampleur du changement climatique dans le vaste océan Arctique, et notamment Sophie Becherel sur la fonte de la banquise.
À tout point de vue, c'est une mission exceptionnelle, de celle qu'on ne vit qu'une fois dans une carrière, selon Hans-Werner Jacobi, chercheur au CNRS, seul membre d'un institut français à y avoir participé.
On a un peu l'habitude de travailler comme ça dans les régions polaires, mais mobiliser autant des groupes, d'équipes, de gens, des instruments, d'équipements, de moyens, à tous ces niveaux, c'est exceptionnel.
Le Polar Stern est un brise-glace de 118 mètres de long en fin de carrière. Avant lui, 2 expéditions majeures avaient eu lieu. En 1896, celle du Norvégien Nansen à bord du Fram. Pris dans les glaces, il n'en était sorti que 3 ans plus tard, mettant en évidence la dérive de la banquise arctique. 110 ans plus tard, la goélette Tara avait mis 2 fois moins de temps. Et cette année, le Polar Stern confirme la vitesse de fonte de la banquise du Nord est dramatiquement rapide. Reste à savoir comment cela impacte le réchauffement climatique. Pour cela, Hans-Werner Jacobi a pu mesurer les échanges de CO2 et de méthane entre la glace et l'atmosphère pendant 4 saisons consécutives.
Pour l'instant, on ne sait pas si l'océan Arctique, et surtout en hiver, si c'est un puits ou une source pour ces gaz à effet de serre. Pour cet endroit-là, donc près du pôle Nord, en hiver, on a eu aucune observation, 0.
Des dizaines d'autres mesures ont été faites, plus de 1000 carottes de glace collectées. Il faudra 1 à 2 ans pour faire parler toutes ces données.
12h49, la suite de votre journal, Thomas.
Et l'invité de la rédaction aujourd'hui, Jean-Louis Bricout, député socialiste, membre de la Commission des Finances, en direct et en duplex de l'Assemblée nationale. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors avec vous, je l'évoquais en début de ce journal, nous allons parler de l'examen à partir d'aujourd'hui du projet de loi de finances 2021. Il se trouve que vous êtes nombreux au sein de l'opposition, mais pas seulement d'ailleurs, à réclamer aujourd'hui
des contreparties aux aides octroyées aux entreprises. Ce qui est assez curieusement n'avait pas été le cas, ou presque, lors de la mise en place du CICE. Pourquoi réclamer aujourd'hui ce qui n'avait pas lieu d'être lors de la mesure phare du quinquennat de François Hollande?
Oh, je crois que ça a été réclamé. Alors, je crois que le CICE, comme la baisse des impôts de production, c'est ce qu'on appelle les politiques de l'offre, hein, qui visent à améliorer la compétitivité des entreprises, notamment les plus grandes, celles qui ont vocation à l'exportation. D'un point de vue général, je veux dire, le budget, nous, ce qu'on regrette, c'est déjà qu'il soit trop porté sur les politiques de l'offre et qu'il ne soit pas assez axé sur les politiques de la demande, notamment pour répondre à l'urgence sociale. Il y a près d'un million de personnes qui sont tombées dans la pauvreté. Il y a aussi des entreprises qui attendent bien sûr de travailler, les plus petites entreprises, mais qui attendent aussi de remplir leur carnet de commandes. Donc on voudrait déjà en premier lieu avoir un budget qui soit plus équilibré vers les politiques de la demande. Alors pour ce qui est du CICE comme de la baisse des impôts de production.
CICE, on va rappeler quand même crédit, impôt, compétitivité, emploi. C'était un dispositif de rétrocession de 20 milliards d'euros aux entreprises.
Oui, qui a coûté plus cher que ça. Il a coûté à peu près 90 milliards sur l'ensemble du mandat. C'est un dispositif qui donnait, se préférait une allocation quelque part aux entreprises suivant la masse salariale. C'était à peu près 7% de la masse salariale. Ça représente à peu près 1 500 € par employé, qui venait après impôt. Alors, quand on fait un cadeau aux entreprises, d'une façon générale, dans le cadre des politiques de l'offre pour améliorer leur compétitivité, elles ont plusieurs choix. Le premier, c'est de renflouer quelquefois leur trésorerie quand elles sont dans des situations délicates, et c'est plutôt bien parce que ça permet de refaire surface. Ça leur permet aussi, en dégageant des marges, de pouvoir investir dans leur outil de production, améliorer leur productivité. Ça leur permet aussi, quelquefois, d'améliorer les salaires, qu'on a besoin de ressources humaines. On retourne là vers les politiques de la demande, ça améliore le pouvoir d'achat et ça relance aussi l'économie. Par contre, s'il y a quelque chose à proscrire quelque part qui pose problème, c'est la distribution de dividendes. C'est-à-dire que c'est de l'argent public qui se transforme en redistribution de dividendes, qui est par ailleurs imposé très faiblement parce que les revenus du capital...
C'est ce que vous craignez avec ce plan de relance.
C'est à chaque fois la crainte qu'on peut avoir. Ce que je regrette dans le CICE, d'une part qu'il a arrosé trop large toutes les entreprises, alors qu'il doit être, à mon avis, mieux ciblé sur les entreprises qui ont plutôt une vocation à l'export. Mais aussi,
Et même chose aujourd'hui. Donc,
il n'y a pas forcément de création d'emplois.
Précisément, François Hollande a pris la parole ce week-end pour dire qu'il proposait de taxer les plus hauts revenus pour financer la crise, notamment les revenus tirés des dividendes. C'est ça qu'il faut faire ?
Certainement. Je pense que ça fait partie des solutions qu'on a proposées. On voit bien qu'avec cette crise, non seulement il y a un déséquilibre dans ce plan de relance entre les politiques de l'offre et de la demande, mais en plus, tout est quasiment financé par la dette. Nous, on avait proposé d'aller chercher d'autres recettes, alors notamment par ce qu'on appelle la flat tax, hein, qui a vocation à taxer les revenus du capital, qui sont imposés à 12,8%, alors que les revenus du travail sont imposés, la première tranche est à 14%, donc il n'y avait rien d'indécent à demander effectivement aux plus fortunés, ceux qui touchent des dividendes, de participer un peu plus à la relance.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression de voir revenir le mon ennemi, c'est la finance, qui n'a pas vraiment été mise en œuvre sous le quinquennat de François Hollande?
Ah bah là, c'est clair que la finance s'y retrouve bien. Quand on transforme l'ISF en IFI, c'est un vrai cadeau qu'on fait au monde de la finance. Hein.
Réclamez-vous le rétablissement de l'impôt sur la fortune?
Au moins temporairement, je veux dire, on est dans une situation exceptionnelle où je pense, je vous dis, qu'il n'est pas indécent que les plus fortunés, il y en a même qui ont profité de cette crise, puissent participer un peu plus. Alors on l'a demandé quelquefois au secteur bancaire, au secteur assurantiel. On peut le faire à travers l'ISF, à travers, on le disait, la flat tax sur les revenus du capital. On pourrait demander une participation plus importante, aller chercher quelques deniers sur les contrats d'assurance vie. On a un encours d'assurance vie qui est absolument colossal en France. Et il faut bien financer, en fin de compte, des mesures de soutien aux plus petites entreprises, relancées par le pouvoir d'achat, par la consommation. Donc on a besoin de nouvelles recettes aussi.
Vous disiez, il n'y a rien en faveur de la politique de la demande, mais il y a quand même un financement de l'activité partielle qui est assez important dans ce plan de relance.
Oui,
il y a aussi, en direction
plutôt...
de personnel soignant, il y a une augmentation de leur revenu.
Oui, heureusement, je crois que ça a répondu.
C'est pas
plutôt...
suffisant.
Non, c'est pas suffisant. On voit bien que les entreprises attendent, je vous dis, d'abord de travailler. Et là, les mesures, il y a une incidence avec les nouvelles mesures sanitaires. sanitaire. Avec le rebond, c'est encore plus compliqué pour les entreprises pour pouvoir travailler. Et en plus, il faut leur ramener de l'activité. Et en fin de compte, la meilleure façon de créer de l'emploi, c'est de créer de l'activité. Donc je pense qu'il y a besoin justement de ces politiques de la demande qui visent à distribuer peut-être un peu de pouvoir d'achat à ceux qui ont beaucoup souffert de la crise, à ceux qui ont beaucoup participé à toute cette crise sanitaire pour pouvoir les aider à consommer. Alors la seule précaution à prendre quand on est dans les politiques de la demande, c'est que les dépenses, elles soient le plus fléchées possible pour pas consommer sur des produits qui sont importés, qui n'apportent rien à notre économie nationale.
Et ce sera le dernier mot. Merci Jean-Louis Bricout, député socialiste, membre de la commission des finances, d'avoir répondu à notre invitation directe en duplex depuis l'Assemblée. Merci également à Stéphane Robert ainsi qu'à Sandrine Malon pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Généralement voilé et pluvieux à l'exception du sud-ouest et du pourtour méditerranéen où le soleil se montrera beaucoup plus généreux. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 22 degrés. Et c'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Paumet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.